Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous avons un beau programme pour vous ce matin. On va passer les deux prochaines heures à discuter, entre autres, des trop perçus d'Hydro-Québec. Il y a une pétition qui, jusqu'à... On vient de vérifier, là, il y a 15 minutes, on en était à plus de 68 000 noms de Québécois, Québécoises qui veulent vraiment, qui insistent pour que le gouvernement du Québec rembourse. Là, on est rendu à 1,5 milliard de dollars en trop perçus par Hydro-Québec. Moi, c'est vraiment un sujet qui me préoccupe beaucoup. Ça fait déjà depuis un petit moment là qu'on discute de ça. Les libéraux déjà de Philippe Couillard traînaient cette patate chaude. Pendant la campagne électorale, François Legault et la CAQ avaient beaucoup appuyé sur ce clou-là. Et là, aujourd'hui, ben la CAQ étant le nouveau gouvernement, on s'attendrait à ce qu'il... concède ce remboursement. Quand on parle de trop perçu, c'est de l'argent qui nous appartient, qu'on a trop perçu sur nos factures d'Hydro, là. Vous vous rendez compte de ça, là. Fait qu'on va parler de ça tout à l'heure avec quelqu'un de la Fédération canadienne des contribuables. On va également parler de cette fatigue de l'hiver. Mon Dieu, qu'on a peu pu, que ça finit. Ça finit peu de finir. Là, le rhume qui revient. Là, en tout cas, regardez, là, on est bien tanné, là. Je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment tanné, là. J'en ai comme vraiment mon casse. Donc, nous allons parler de ça ensemble tout à l'heure avec un pharmacien. Et savez-vous ce qu'on va faire? On va s'échanger des trucs pour essayer de passer à travers le restant d'hiver puis accueillir le printemps dans la joie. Le printemps étant la semaine prochaine, jour pour jour, dans une semaine. Bon, en attendant, en première heure d'émission, je vais vous proposer quelque chose qui va être, je pense, amusant et didactique tout à la fois. On va parler de cannabis parce que ce qui semble être un nouveau métier d'avenir, mes invités vont nous le dire, c'est sommelier pot. Alors là, je pense que ça existe pas vraiment, mais c'est en train de voir le jour. Nous avons avec nous Olivier Desjardins, mieux connu sur YouTube comme celui qui a lancé le Pot Show, qui se fait aussi appeler Oli Jardin. Salut Olivier.
Hey, bonjour Isabelle.
Merci d'être là ce matin. Avec nous également à Sherbrooke, José Dominguez, qui est un maître cultivateur de cannabis. Alors maître cultivateur de pot, ça aussi, c'est un titre qui va de plus en plus être enviable. Merci d'être avec nous, José. José est-il là? Bon, ben écoutez, José devrait être là dans pas longtemps. on parle beaucoup, Olivier, depuis la légalisation du cannabis. Bon, c'était le 17 octobre dernier. On parle de ce sujet-là, souvent avec amusement, parfois avec crainte, souvent d'ailleurs avec crainte, surtout en ce qui concerne les jeunes, avec beaucoup d'hypocrisie aussi, parce qu'on on parle de légalisation, mais en même temps, il faut rappeler aux auditeurs et auditrices que c'est encore criminel de posséder du cannabis chez toi. Par exemple, tu peux pas en faire au Québec la culture. Tu sais,
criminel, c'est peut-être plus pénal que criminel.
Pénal,
ça dépend
voilà.
des cas, là, mais oui,
Donc, là, il y a la Société québécoise de cannabis, la SQDC, qui en vend, mais qui en vend moins que les consommateurs l'espèrent parce qu'il y a un manque de stock. Et là, on se disait, bon, est-ce qu'on sait ce que les gens achètent véritablement? Alors, je trouvais ce matin que c'était une bonne idée de revenir d'abord sur ce nouveau métier que tu sembles pratiquer, sommelier pote. C'est quoi un sommelier pote?
Ben écoute, c'est sûr que là tout est nouveau. Donc comme tu l'as bien mentionné, il y a rien encore de, il y a pas de formation vraiment officielle. Tout est encore en train d'être fait. Donc c'est un petit peu de l'autodidacte. On apprend tous un peu par soi-même, soit par internet ou par les livres. Donc,
mais toi, raconte-moi la genèse de ton implication dans le cannabis. Là. Est-ce que tu es un consommateur depuis très longtemps?
Oui, moi je
suis intéressé à la chose.
Oui, ben c'est ça. Moi, écoute. Ça fait au-dessus de 20 ans que je consomme là, de façon chronique. Pour expliquer un peu aux gens, là, on peut diviser ça en trois façons. Donc, il y a de façon occasionnelle, ça le dit. Après ça, sociale. Fait que ça serait quelqu'un qui fumerait, qui sort dans les bars ou quand il va à un party. Puis, il y a une personne chronique. Donc, c'est quelqu'un qui a une consommation là, régulière. Ça peut être à chaque jour, ça peut être pas à chaque jour, mais chronique, c'est très régulière.
Mais toi, parle-moi de ton histoire à toi.
Ben c'est ça. Fait que moi, ça a commencé, écoute, comme que je dis, à l'école du pot, c'est-à-dire le cégep.
Du pot, c'est le cégep. C'est bon, ça.
Absolument. Puis, ben écoute, je suis aussi graphiste, donc dans le domaine des arts, la création. Puis, est-ce que les deux vont ensemble? Ben, peut-être que oui. Donc, c'est un petit peu dans, on va dire, l'éveil de ma créativité que j'ai découvert, le cannabis aussi. Mais c'est clairement pas au début que j'ai voulu en faire la sommellerie.
Ouais. Quel âge as-tu aujourd'hui?
Là, moi, j'ai 38 ans.
38 ans. Ouais. Oh mon Dieu, t'as pas l'air de 38
non,
ans.
Non, je sais, j'ai une
petite face. Les auditeurs te voient pas, mais bon, t'as l'air d'un jeune qui a fini son cégep il y a pas si longtemps.
Ouais, je sais, on est qu'un groupe d'amis qu'on a ces cartes.
C'est bon, est-ce que le pod conserve?
Ben, il y en a qui disent que c'est ça, parce que ça garde le cœur jeune, fait que le reste est jeune. Donc, puis là, si on va aller plus loin de comment que j'ai voulu pousser ça pour éventuellement devenir un professionnel.
Ouais.
Ben là, j'ai eu, on va dire, une période morte dans ma vie, qui était juste avant la légalisation. Puis,
qu'est-ce que tu veux dire? Où tu consommais moins? Ou...
Ben non, mais je veux dire période morte au niveau emploi. J'étais sous chômage, bref. Puis,
tu te cherchais un peu?
Je me cherchais un peu. Puis évidemment, ben avec le stigma puis tout ça, oui, c'était un domaine qui m'intéressait. Mais j'ai pas la fibre agriculteur, je me voyais pas partir faire de la culture. Donc c'est là qu'est venu un petit peu le déclic de ben, pourquoi pas devenir un sommelier puis entre guillemets 2.0 plus au niveau digital, image. Donc
ben, surtout que la culture, on a compris qu'au Québec, c'est réservé, ça prend des permis, c'est réservé à quelques rares personnes. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup moins de permis qui ont été octroyés qu'en Ontario, par exemple.
Ben oui, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Le gouvernement en voulait pas. Puis maintenant que c'est légal puis que c'est disponible, ben on est pris avec cette mentalité-là qui a fait en sorte que les choses avancent pas, là, puis que c'est compliqué, puis il y a beaucoup de bâtons
dans les roues. Le gouvernement du Québec en voulait pas, mais c'est le fédéral qui donne les permis. Donc,
ouais, ouais.
Faut pas mélanger les deux.
Non, puis on va essayer de rester simple parce que c'est très compliqué.
Ouais. Une chose est sûre, c'est que là, aujourd'hui, c'est légal et il y a des gens qui se découvrent des passions pour le pot, comme toi, entre autres, Oli, où tu, sur YouTube, tu as ton pot show, où tu dis que tu veux démocratiser d'une certaine façon le pot parce que tu dis, bon, souvent, les gens en parlent, mais ils savent pas de quoi ils parlent.
Ben absolument. Puis même moi, j'apprends encore tous les jours. Si on fait une corrélation simple, ben, il y a au-dessus de 100 produits là, actifs dans le cannabis. Donc, puis ça fait quoi? Ça fait 6 mois que c'est légal. Donc, on ne peut pas dire qu'on connaît ça vraiment. Même les plus grands experts, c'est la première chose qu'ils vont dire, c'est qu'on est au début, on est au commencement. Donc,
puis il y a combien de sortes de potes différents?
Ben, celui qui en a le plus, là, son nom m'échappe, là, mais d'Israël, là, lui, dans son jardin, entre guillemets, il y en a au-dessus de 250 sortes. Mais c'est parce que c'est toujours une histoire de croisement, puis là, il y a la phénétique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Là. Donc, je suis en train de dire que c'est très simpliste de diviser ça en sativa, indica, en les trois sortes que la SQDC, là.
La SQDC vend quoi, là, par exemple? C'est ça, pour les gens. Moi, j'ai jamais mis les pieds à la SQDC. Je fais pas la queue dans la vie, en général. Donc, j'évite, justement, les files d'attente de la SQDC. Là, tu dis, il y a trois sortes, surtout, que la SQDC vend?
Bien, en fait, si on prend le début, là, les trois sortes, l'indica, le sativa, puis le hybride, finalement, c'est un point de départ pour être capable d'avoir le même référent là, dans une conversation, si on veut. Mais ça va vraiment plus loin que ça. Fait que... À quatre parts même, c'est banaliser le cannabis, le réduire à ces trois sortes-là. Puis qu'est-ce que la SQDC vend? Ben, elle utilise un peu ce système-là simpliste. Donc, elle divise le cannabis en sativa, indica et hybride.
Et pourquoi on a divisé ça comme ça? Le sativa,
c'est sûr qu'au départ, c'est vraiment là, des souches différentes. Maintenant, puisqu'on parlait du gars avec ses 200 sortes, il y a plein de croisements, puis... Une plante qui est 100% sativa ou 100% n'importe quelle sorte, ça n'existe pas. Puis en plus, il y a une troisième sorte qui existe.
Qui est hybride, qui est une espèce de...
Non, mais t'as un autre là, qui n'est pas hybride. Là,
le nom méchant. Non, hybride.
C'est un autre là, qui celle-là est utilisée surtout pour la reproduction. Là. Ça fait en sorte que c'est... Les plantes se reproduisent sans trop complexité. Là.
En matière de culture, justement, on a un expert en cannabis. On me dit qu'on peut lui parler maintenant. Il était en notre studio de Sherbrooke. José Dominguez est avec nous. Il est maître cultivateur. Il a cofondé Canveda. C'est un producteur autorisé, justement. C'est le cultivateur privé le plus décoré au Canada. C'est drôle dit de même. Mais effectivement, José, vous avez reçu 43 Cannabis Awards.
Oui, c'est un peu un... La concrétisation d'une longue aventure dans la culture légale, là, parce que moi, je suis producteur privé depuis les années d'environ 2003.
Uh-huh.
Donc, c'est des concours où est-ce que, justement, les gens vont juger. Soit c'était des concours où est-ce qu'il y avait des, exemple, 300 juges qui participaient pour tester les produits, qui sont monsieur, madame, tout le monde, ou sinon, souvent, des compétitions où t'avais des gens qui étaient réputés dans l'industrie du cannabis, qui étaient sélectionnés pour tester les échantillons.
Et on parlait avec Olivier Desjardins du fait que sommelier pote est en train de devenir, évidemment, on comprend le jeu de mots ici, sommelier par rapport à ceux qui sont des taste-vins, qui sont des spécialistes du vin. Ici, devenir un spécialiste du pote, ça commence à se profiler dans la tête de ceux qui consomment beaucoup. Ça peut même être une façon de joindre l'utile à l'agréable. Dans votre cas, José, vous vous êtes maître cultivateur de cannabis, aussi expert en cannabis, expert en pot, c'est en train de devenir quelque chose de très vivable. Il y a beaucoup de gens qui se disent, des jeunes surtout, qui se disent, hey, peut-être que je peux joindre l'utile à l'agréable.
Mmh. Oui, c'est sûr que la légalisation amène beaucoup d'opportunités dans le sens où il va y avoir beaucoup de dérivés à l'industrie. La culture est seulement un des aspects. Faut se rappeler que la culture, c'est quand même une des étapes, c'est l'étape quand même la plus importante. Puis par la suite, il y a beaucoup d'autres choses. Exemple, les gens qui s'occupent de l'emballage, eux autres vont avoir, exemple, à décider est-ce que le produit est assez effeuillé, est-ce qu'il est bien présenté, ces choses-là. Autant que tu vas avoir des compagnies de consultation pour la culture, autant que tu vas avoir des compagnies qui ont vu le jour, exemple en finance, comme Maricom, qui est un bon exemple de ça, où eux autres vont rendre accessible dans la langue française aux investisseurs potentiels pour les producteurs, parce qu'il y a quand même des barrières là-dedans, beaucoup linguistiques, d'où certaines provinces ayant plus d'accès à des fonds privés et des choses comme ça.
Voilà.
Mais, ouais. Et tu vas avoir les sommeliers. Il faut se rappeler que dans l'exemple La Ruée vers l'or, les gens ont fait beaucoup plus d'argent à vendre des pics et des pelles que d'aller creuser de l'or.
Mm-hmm.
Donc, c'est tous les produits, les disciplines associées à ça et les produits dérivés de ça qui sont connexes avec cette nouvelle industrie-là, selon moi, est beaucoup plus grande que la culture du cannabis.
Comme par exemple, produits dérivés?
Oui, exemple. Ben, c'est un bon exemple, surtout dans le sujet que vous abordiez ce matin avec les dégustations.
Ouais.
C'est quand même, je pense, le bon terme à utiliser, la sommellerie dans ces cas-là, parce que c'est la chose la plus près qu'on a du cannabis, étant donné les milliers de saveurs qui peuvent être, agencements de saveurs qui peuvent être à l'intérieur d'une fleur ou d'un extrait. À l'opposé, exemple, les goûts deviennent peut-être un peu plus forts dans l'alcool quand on purifie l'alcool avec un taux d'alcool plus fort. Dans le cannabis, quand on fait des extractions, on raffine le produit. Donc, il va y avoir plus de distinction de goût encore, ça va être plus fort à l'effet, un peu comme les spiritueux dans l'alcool, mais il va avoir un raffinement au niveau du goût, du palais, puis de tout ce qui englobe l'appréciation du produit.
Mm-hmm. Puis, corrige-moi pas si je suis correct, mais l'avenir, en fait, il y a plusieurs producteurs qui disent que l'avenir va simplement être dans les extraits.
Extraits
comme ceux-là ici,
comme
mettons,
de l'huile.
Oui, selon moi, je pense qu'il y a une bonne partie de vérité. Faut quand même mettre un peu un bémol là-dessus, parce que dans les extraits, bon, on parle des extraits, exemple, qui vont se consommer en fumée ou en vaporisation. Ensuite, on va avoir tout ce qui est comestible qui s'en vient. Il faut se rappeler que dans les marchés légaux matures, oui, une des plus grandes parties des ventes et le lait de la vache là, que les compagnies se disputent, mm-hmm, vient des produits dérivés et de moins en moins pour les produits consommables par inhalation. Parce que ça, fumer, c'est pas santé. Fumer, ça sent. Mm-hmm. Puis on essaye d'aller dans des choses où est-ce qu'il y a un peu moins déjà de stigmatisation. Donc, c'est sûr que tous les extraits, les edibles, ça devient le cheval de bataille. Puis ce qui arrive là-dedans, c'est que, bon, on va oublier un peu la culture au fil des années de se rouler un joint de pote. Là, ça va un peu s'atténuer avec le temps parce qu'il va y avoir beaucoup de, je pense, de variétés de produits.
Et d'autres façons de le consommer.
Oui, exactement.
Bien, c'est sûr, comme la première fois que tu consommes quelque chose, c'est souvent comme ça que tu vas le répéter.
Ouais.
Donc, qu'avant, moi, prendre de l'extrait comestible, c'était pas accessible. Mais pour les jeunes, dans 10-15 ans, ça va être la norme plus que le joint. C'est celui-là que je voulais aller. Là.
Ça, c'est bien sûr. Puis il faut se rappeler qu'avec tous nos non-sens des réglementations, on peut pas consommer le cannabis nulle part. Mais tu peux manger un suçon au parc, tu peux boire un cola au cannabis chez vous là. T'sais, parce qu'il y a des gens où justement les appartements ils ont interdit la consommation en fumée. Donc, par définition, les gens s'en vont vers ces produits-là.
Mais en ce moment, au Québec, on n'a pas le droit là, de tout ce qui se mange
non,
et qui contient du cannabis.
Quand ça va être mis en marché légalement...
Vous pensez qu'on va revenir là-dessus puis qu'éventuellement, ça va être permis, là?
Ben, je dis pas que ça va être permis parce que c'est quand même, écoute, là, toutes les provinces ont leur petit mot, leur petite politique de dire, bon, ben, moi, c'est correct dans les événements publics, d'autres pas, patati patata. Il y en a qui veulent même pas que le cannabis se rende sur leur territoire dans certaines municipalités. Mais ce que je veux dire, c'est, si mettons, on prend une marche au parc, les gens se plaignent, oh, on peut pas fumer, puis on peut pas fumer la cigarette nulle part maintenant.
Non, c'est
donc,
ça.
Donc, si on conserve l'aspect de la réduction des méfaits avec la fumée qui est un aspect de santé publique, ben si tu dis ben j'aimerais ça fumer un joint en prenant ma marche au parc, ben mange un suçon au cannabis de THC puis c'est pas illégal, ce qu'on essaie de résorber dans tout cet aspect-là de pas pouvoir le consommer nulle part, c'est vraiment la réduction du risque par rapport à la fumée puis à la fumée secondaire. Non, donc
je comprends. Mais en ce moment, juste pour qu'on soit bien sûr, en ce moment là, un suçon au cannabis là, c'est pas légal
non,
au Québec.
Si tu le fabriques toi-même, que tu le transformes toi-même, que tu l'as pas acheté, c'est la seule manière ça peut être légal.
C'est la seule manière puis encore.
Mais encore là, s'il y a une police à côté qui sait que c'est un suçon au cannabis, il peut te dire hey.
Non, je pense pas. Si tu le fais toi-même, je pense que Ali a raison. La seule chose, c'est que les méthodes de fabrication pour fabriquer, exemple, des produits dérivés, des choses comme ça, la plupart sont illégales pour le citoyen de faire. Donc, on peut faire du beurre aux potes à la maison. Tant qu'on le vend pas, mais exemple, on pourrait pas faire un extrait concentré d'huile en utilisant des solvants ou en faisant
on va revenir là-dessus si vous voulez bien tous les deux parce que non mais c'est des questions importantes. Je pense que c'est faut juste clarifier parce que je trouve que la loi est pas claire. Les gens le savent pas. Puis j'ai des discussions des fois avec des amis, des collègues. Puis on s'ostine sur c'est légal, non toi t'as pas le droit, non ça c'est criminel, non ça c'est permis. Fait que je pense qu'on a besoin de vos lumières à vous deux pour... vous n'avez pas trop fumé, vous, ce matin?
Non, moi,
ça va, tout va bien. Vous, José, ça va aussi?
Non, moi, tout va bien.
Bon, parfait. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Une autre question qu'on a, c'est que plus tu fumes, moins t'es sujet à avoir des... c'est-à-dire des effets importants, peut-être qu'il y a une accoutumance aussi. Il y a plein de questions comme ça qui viennent. Je pense qu'il y a des auditeurs parmi mes auditeurs, j'ai des spécialistes, parce qu'il y en a même qui ont trouvé le nom que tu cherchais tout à l'heure, Oli, je pense que
c'est Rudalis.
Voilà, cannabis.
C'était le petit stress de live là, que je l'avais oublié.
Il
n'y
a pas
là,
de problème, mais... OK, t'as pas. Si t'es stressé, j'ai du pot ici que tu m'as apporté. Ça calme,
moi, je
prendrais paraît.
Lui, j'ai bien hâte de le voir.
Ça calme, on va en parler de tout ça, on va revenir. On va faire un petit cours 101 de cannabis. Je tiens cependant à dire qu'on ne fait pas la promotion ici pour ceux que ça dérange. On fait juste vous informer puisque visiblement c'est dans l'air du temps. On me dit aussi qu'il n'y a plus de stock à la SQDC. On va voir si effectivement c'est le cas. Tout de suite après ceci, si vous avez des questions ou des commentaires, vous voulez discuter avec nous, on parle bien sûr de ce nouveau métier, sommelier pote, mais aussi de tout ce qu'on apprend tous les jours sur la culture nouvellement légale du cannabis, cette culture sociale, bien sûr. 514-790-9850 pour nous joindre. Si vous avez des questions pour nos spécialistes en cannabis ce matin, vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi aussi si vous avez déjà été faire la file là, à la SQDC, la Société québécoise de cannabis. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire il n'y a plus rien. Là. Les listes d'attente à la SQDC, là, ça fait longtemps, là, depuis le temps des fêtes, que finalement il n'y a plus de fil. Et puis, de toute façon, les gens le savent, quand tu y vas, il n'y a plus beaucoup de stock. Ce matin, mes invités, entre autres Olivier Desjardins, qui est un YouTuber, qui a un show qui s'appelle le Pot Show, qui est un sommelier du pot. C'est comme ça qu'il aime bien qu'on l'appelle maintenant. Oli m'a amené toutes sortes de... Je mettrai une photo sur mon Facebook, là, vous irez voir, sur Isabelle 985 et sur Isabelle Maréchal Officiel, où on voit différentes sortes de packaging, j'allais dire, de cannabis. Mm-hmm. Il y en a la moitié, Oli, ça vient de la SQDC. L'autre moitié, c'est autre chose.
C'est des producteurs au niveau médical.
Et pendant la pause, on a ouvert quelques pots que tu m'as apporté de la SQDC où tu disais qualité 5 sur 10. C'est beaucoup ce qu'on dit depuis quelques temps, c'est-à-dire que la qualité est très, très, très moyenne, ce qui fait que l'espèce d'idée du fédéral de Justin Trudeau de dire on va limiter, on va essayer d'un peu de freiner le marché noir. Puis on va faire en sorte qu'on offre un produit de qualité. On est passé à côté, là.
Absolument, absolument. Écoute, est-ce qu'il faut mettre ça sur la faute des producteurs? La faute est à quatre parts, mais ça fait en sorte qu'au final, les produits ne sont pas là. Si on parle des vraies choses, San Rafael, c'est celle qui semble avoir la plus grande constance. Ça, c'est un paquet de ce qu'Isabelle a défait, c'est un paquet d'un gramme. Donc, tu peux le tourner
de bord. C'est l'équivalent d'un gramme, pour vous dire, c'est l'équivalent de...
Dépendamment, là, mais au moins deux joints, là. Ça va être des gros joints à un gramme, là.
Oui, ça en est. Oui, t'es généreux.
Ouais.
Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de carton puis de plastique là-dedans.
Écoute, j'ai fait les calculs, puis ça va pas bien en bas de 1 pour 10, c'est-à-dire 1 gramme de pot, 10 grammes d'emballage, toute matière confondue. Ce pot-là ici, là, qui est en plastique métal, lui, il est au-dessus de 100 grammes. Puis je vois pas comment on peut recycler ça quand il y a une fusion entre du plastique puis du métal. Là.
Pourquoi qu'on le vend emballé comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas le vendre en vrac? On n'a pas le droit, je pense, José Dominguez, hein, vous qui êtes maître cultivateur de cannabis, je disais que la culture du pot en vrac n'est pas permise.
C'est quand même tout assujetti à la réglementation en fait de Santé Canada, les contraintes qu'on a. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de marketing, trop de branding non plus. C'est illégal dans les règlements de production.
Ouais.
Donc, l'emballage devient un peu le seul véhicule de démarcation d'un producteur à l'autre parce qu'on a même quasiment toute la même étiquette, la même avertissement, pis ces choses-là.
À ce sujet-là, j'ai un exemple, justement. Là, on voit ici, là, excuse 30 secondes, mais tu vois, le pot, ça, c'était les pots avant. Donc ici, on voit très bien qu'ils disent là, c'est poussé à la main, la meilleure trim, bien expertisé, mais ça faisait probablement partie d'un lifestyle, le lifestyle de qualité. Donc, ils ont écoulé leur peau, puis maintenant, tout ce qu'on a, c'est ça. On n'a aucune information, on ne sait même pas que ça a été trimé à la main, que c'est de l'expertise.
Ça fait partie un peu du marketing là, dans la réglementation. Puis, quand on parlait de la culture en vrac, en fait, du cannabis en vrac. Les producteurs, eux autres, bien souvent, exemple, vont se vendre des lots, des choses comme ça, puis les gens vont revendre le cannabis d'un autre producteur sous leur nom parce que ça devient compliqué de cultiver toutes les variétés. Quand tu parlais de qualité, Olivier, c'est aussi un aspect réglementaire. Tu sais, le cannabis qui sort des usines doit avoir un niveau microbiologique quasiment... quasiment nul. Et la réalité de ça, c'est que on peut pas, quand on crée une industrie, exemple qu'on créerait l'industrie du lait demain matin, on peut pas prendre de chance parce qu'on va rendre les gens malades à un moment donné. T'sais, on peut pas savoir qui consomme le cannabis, de quelle manière il va le consommer. Si quelqu'un a le cancer du poumon, il y a des bactéries qui se retrouvent là-dedans qui peuvent être extrêmement dangereuses dans des situations. Puis dans la situation où t'es un joueur de hockey qui est fatigué de ta game de hockey, que tu vas t'asseoir puis fumer un joint pour relaxer, il pourrait avoir un peu de n'importe quoi là-dedans, puis tu sais, je veux dire, ça t'affectera pas ta santé dans l'immédiat. C'est vraiment l'exposition à ces toxines-là, à ces bactéries-là, à ces spores-là qui peuvent être problématiques pour quelqu'un en santé, mais tout ça a rapport à la réglementation sévère de Santé Canada. Puis étant donné qu'on est à un début, comme tu disais, de la recherche scientifique et tout ça, on peut pas, je pense, le gouvernement, Santé Canada, personne peut prendre le risque de se faire pointer du doigt là-dedans dans 10 ans.
C'est sûr qu'ils ont eu des problèmes en Californie. Ils en ont eu des problèmes de moisissure, etc. C'est pas pour rien qu'il y a ça. Pour moi, le cannabis sèche, c'est une fleur séchée. C'est pas un problème que ça soit sèche pour moi. Oui, il y a des problèmes que trop de séchage apporte, dont qu'on le sent moins, etc. Il faut le réhumidifier avant de le consommer. Mais pour moi, c'est justement la preuve de comme que tu dis.
Il faut que je vous arrête ici. Il faut absolument qu'on aille à pause. On vient tout de suite après. 514-790-9850. On parle de sommelier cannabis, un nouveau métier d'avenir. Peut-être seriez-vous tenté. Évidemment, depuis la légalisation du cannabis en octobre dernier, on a dit beaucoup de choses. Il va s'en dire encore sur la consommation de cannabis. Ce qu'on sait, c'est que chez les jeunes, en tous les cas, le gouvernement veut faire en sorte que ça soit interdit en bas de 21 21 ans. En ce moment, c'est 18, mais il y a toujours ce débat autour de l'âge de la consommation. Pour les adultes, c'est sûr qu'il y a, des gens qui peuvent être tentés aussi. Ce qu'on essaie de faire ce matin, c'est de clarifier certaines choses. On en profite donc pour éclairer vos lanternes. Moi, je le dis bien, bien humblement, je n'y connais pas grand-chose aux potes, mais je suis curieuse, sans doute comme vous. On a Louise qui est au bout du fil. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Bonjour, Louise.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ai une question. On en perd un peu notre latin dans la liste de tous les produits disponibles. Moi, je suis concernée par la réduction de l'inflammation,
oui,
de la douleur en relation avec l'arthrite.
Oui. Donc, vous, ça serait
quel produit on doit...
Cannabis thérapeutique.
Qu'est-ce qu'on doit acheter? On demande quoi au comptoir?
José Dominguez, veut-il répondre là-dessus?
Oui, ben c'est sûr que si exemple Louise, vous voulez pas consommer en termes d'inhalation, les gélules qui sont disponibles, je crois que le plus, je pense que celle qu'on retrouve souvent le plus, c'est ceux-là de Tweed, là, Canopy, avec un ratio normalement de 1 pour 1 CBD THC. Donc le plus proche exemple, c'est 15 mg de CBD, utiliser 15 mg de THC. C'est d'essayer de se tenir dans ces ratios-là si on veut absolument ne pas avoir exemple d'effet d'intoxication, exemple plus pendant le jour, ces choses-là, on diminue le THC, on essaie d'augmenter le CBD, et à l'opposé, si on cherche à aller un peu plus, à être dans un état d'avoir un effet sédatif pour la nuit, puis relaxer peut-être un peu plus au niveau là, de la tête et du corps, si on veut, on va augmenter le THC. Parce qu'il faut se rappeler que le CBD a pas vraiment de propriétés psychoactives, et souvent, et aussi, c'est un antipsychotique. Donc, ça modère ou ça annule les effets psychotiques ou psychoactifs du THC, mais pas les effets thérapeutiques, si on veut.
Mm-hmm.
Ça, mais moi, j'aimerais ça faire un petit...
Oui.
Parce que, écoute, à la SQDC, ils sont pas aiguillés pour conseiller au niveau médical. Puis il y a quand même quelques petites recherches à faire. Là. Je ne sais pas si vous prenez d'autres médications. Là. Il n'y en a pas beaucoup.
Il faut faire attention aux interactions. Hein?
Moi, ce que j'aime pas, là, on va dire, de où ça s'en va avec le cannabis médical, c'est l'automédication puis la croyance que c'est un produit miracle puis ça guérit tout.
Ouais.
C'est un complément. C'est pas comme je parlais de mon fameux mal de dos dans la fin de semaine.
Ouais.
Ben, je l'ai pris, la petite bouteille qu'elle a là de l'extrait,
ouais,
pour compléter ma médication, pour m'aider à bouger. Là,
c'est de l'huile de cannabis, c'est de la compagnie Broken Coast.
Donc, c'est ça.
Et ça dit THC, huile de cannabis, mélange spécial.
Mais juste
et
pour finir,
ce que je voulais
dire, c'est que c'est ça. C'est, pensez pas que le cannabis, c'est un produit miracle, puis tu prends ça, puis tu n'auras plus d'inflammation, puis bail la fibromyalgie. C'est un outil de plus dans sa quincaillerie pour être confortable. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui,
ouais, faut se rappeler que le cannabis n'est pas un médicament, c'est une solution alternative. Donc, tu sais, quand, exemple, on donne ça à une personne qui a un traitement pour le cancer,
ouais,
les effets secondaires du cannabis, exemple, qui sont bénéfiques normalement, vont être, exemple, laisser aller, rigoler. C'est pas des effets bénéfiques qui sont néfastes secondaires qui sont néfastes dans une situation où on essaie d'enlever un peu la lourdeur d'une condition.
Mm-hmm.
Mais Olivia a raison, faut pas commencer à penser que ça va guérir, ça traite et ça atténue et ça l'aide à passer au travers des fois des situations qui sont difficiles au niveau de la santé.
Mm-hmm. J'aime justement que tu le dis, c'est ça, passer au travers, oui, c'est
on
ça.
A Anne justement qui en prend, je pense. Bonjour Anne, c'est de l'huile de cannabis,
bonjour,
que vous prenez?
Oui, je prends cannabis médical.
Oui, de l'huile que vous prenez?
De l'huile.
Oui?
De l'huile. Mais mm-hmm, je commence, ça fait une semaine et demie, je suis à 0,3 millilitres,
mm-hmm,
une fois par jour. Moi, c'était pour la fibromyalgie, c'est ça. Ben, pour le moment, j'ai pas beaucoup d'effets, là.
Ben, 0,3 millilitres, voyez-vous, là, sur la petite bouteille, ça dit 6 millilitres est égal à 1 gramme. Ça veut dire que 0,3 millilitres, c'est vraiment pas beaucoup.
C'est vraiment pas beaucoup.
Oui, mais je vais augmenter, là, chaque semaine.
Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui vous a conseillé là-dedans un peu. Avez-vous été voir une des cliniques spécialisées?
Oui, je suis à la clinique Santé Cannabis.
OK, bon, ben, c'est ça.
La meilleure.
Vous avez fait le bon choix, là.
Ben, c'est ça, je voulais ça vous demander. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'ils nous donnent et ce qu'il y a à SCDC?
En fait, c'est les mêmes produits en fait qui sont vendus. Ils peuvent être emballés peut-être différemment. Si exemple c'est le Je vous donne un exemple. Vous achetez l'huile rouge de Spectrum, ça risque d'être exactement la. C'est normalement la même formulation, la même constitution.
Okay. Ouais, c'est. Il y a beaucoup de compagnies, comme il dit, c'est exactement le même produit. Peut-être qu'ils le feront pas pousser à la même place. Peut-être que c'est pas exactement les mêmes tests, les mêmes lots, mais essentiellement, comme on pourrait dire, ça vient de la même mère.
Ça
vient de CanTrust.
OK. C'est une bonne compagnie. Moi, ce que je remarque, puis je pense qu'il est bon d'apporter à l'attention des auditeurs, c'est que vous semblez dire que vous commencez ça. C'est une nouvelle. Vous semblez être à vos débuts de la consommation. Puis je pense que c'est important de le rappeler. Quand on commence, autant si c'est une question médicale ou récréative, on commence très bas. Puis on augmente tranquillement pour être capable de trouver son seuil de tolérance. C'est une des clés du succès à la dégustation, à apprécier le produit, puis à être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire indésirable.
Parce que là, tu m'amènes aussi à une autre chose, c'est que le cannabis, les effets, c'est très personnel. Donc, quand on décide de s'engager dans une recherche, j'aime toujours dire de confort, bien, nécessairement, c'est de l'investissement en temps puis en argent. Parce que les produits n'ont pas le même effet pour chacun.
Donc, voilà, c'est ça. On a Jean-Sébastien avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, j'ai œuvré dans le milieu pendant plusieurs années avant même que ce soit légal.
Oui.
Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir quand ça a été légal d'aller à la SQDC pour constater la qualité des produits qui étaient dispensés par le gouvernement.
Et vous en avez pensé quoi?
Ben, Isabelle, je vais te parler franchement ce matin. Là, écoute, c'est un peu n'importe quoi.
Mm-hmm.
Dans le sens que, oui, il y a un produit qui est fourni, qui est quand même de qualité. Je suis bien d'accord avec les interventions des deux collaborateurs ce matin qui disent que chaque personne est différente. Il va réagir différemment aux produits. Mais dans les produits les plus forts qui sont fournis, il n'y a rien là-dedans là, qui accote ce qui est fait sur le marché illégal. Puis là, je ne dis pas que le marché illégal fournit un produit peut-être de moins bonne qualité parce que moi, je pense que le gouvernement aurait dû quand même privilégier, comme il fait dans d'autres industries, des producteurs artisanaux. C'est-à-dire du monde qui ont développé une expertise là-dedans qui étaient soucieux de leurs produits et qui ne faisaient pas n'importe quoi. Puis qui ont développé un produit de qualité, là. Vraiment. Là.
OK. Ouais. Au niveau de la production, moi, je veux intervenir sur ta question, Jean-Sébastien. C'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Tout ce qui est aspect, là, souvent qualité, c'est souvent mis un peu dans le panier. « Ah, oh, ils ne savent pas ce qu'ils font, ces choses-là. » La réalité, c'est que l'innocuité du produit par les producteurs est... Et sans contredit, meilleur que n'importe quoi que tu vas trouver sur la rue. Pour la simple raison que on fait des tests microbiologiques, si ça dépasse le seuil qui est quasiment nul, on l'irradie. Un peu à la méthode des légumes, de ces choses-là. Le problème avec ça, c'est que ça n'affecte pas nécessairement le THC. Donc, tu vas acheter un produit à SQDC à 28% de THC, mais ça l'affecte beaucoup les terpènes. Tout ce qui est responsable des arômes, des saveurs.
Terpènes, ça, c'est une des composantes?
En fait, c'est les huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle, l'exemple de citron, le limonène, le myrcène, les huiles essentielles connues qui sont dans le cannabis, qui ont plusieurs propriétés. C'est un peu de l'aromathérapie, le cannabis. Donc, exemple, si on a du 18% de THC avec un peu plus de telle huile essentielle, on va définir l'effet entourage qu'on appelle. Donc, exemple, on sait que l'huile essentielle de la lavande, qui se retrouve aussi dans le cannabis, stimule la mémoire, les souvenirs, ces choses-là. Ben, c'est un peu ça qui définit. Parce que quand on prend du THC, exemple, si on enlève les terpènes, soit dans un extrait ou en irradiant énormément un produit, on va se retrouver avec un effet totalement générique. Mais ça, c'est tout assujetti à de la réglementation parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Le cannabis qui se retrouve dans la rue, des fois, il est plus intoxiquant parce qu'il y a des pesticides. Des fois, il est plus intoxiquant parce qu'il n'est simplement pas irradié. Puis, par définition, c'est un peu une ironie parce que le cannabis, c'est un océan de saveurs qui contribue à un océan d'effets.
Mm-hmm.
Mais la réalité, c'est qu'on tue tout ça avec l'idée de l'irradiation. Parce que les autres produits, je veux dire, on voit tout de suite qu'une tomate achetée au Farmer's Market est meilleure au goût que celle chez Provigo. Le problème, c'est qu'il y a un contenu bactériologique plus important dans celle-là du Farmer's Market. L'avantage, mais l'inconvénient pour le cannabis, c'est que la tomate, on peut la laver. Le cannabis, on ne peut pas laver ça. Donc, C'est tout, c'est une question de microbiologique.
Donc, ça fait deux fois que vous revenez là-dessus, José. Donc, vous vous dites, c'est important quand même la composante bactéries.
Pas les bactéries, mais les huiles essentielles.
Exact. Tout ça là, pour pas fumer n'importe quoi finalement.
En partant, mais c'est comme on disait, tu sais, il n'y a pas eu jamais de mort du cannabis dans les 5000 dernières années de consommation.
Ça a l'air que c'est faux, comme j'aime dire. On peut faire une overdose d'eau. Fait comment qu'on peut ne pas en faire de cannabis?
Écoute,
Harris, il a sorti ça avec Joe Rogan. Là.
Mais fumer du cannabis, tu seras jamais capable d'atteindre un seuil important. Exemple, quelqu'un qui a un problème cardiaque pourrait avoir un problème, puis est-ce qu'on va mettre la cause sur le cannabis? On va mettre la cause sur il devrait pas fumer de cannabis, il y a des problèmes cardiaques.
Mais si on doit s'arrêter, après la pause, il faut vraiment qu'on y aille. On revient tout de suite après. On a Robert avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute rapidement.
Comment ça va, Isabelle?
Ça va bien, rapidement. Il nous reste juste 4 minutes, Robert.
Pas de problème, je pousse. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que dans le temps, quand je m'ai fait opérer un membre supérieur, j'étais sur l'hydromorphone, j'étais pas capable d'aller faire mon numéro 2. On m'a conseillé, ma chirurgienne m'a fait venir à son bureau privé, elle m'a dit, regarde, avant de consulter en fin de soirée, à place de prendre tes deux pilules d'hydromorphone, elle dit, prends un petit joint, puis ça va t'aider.
Mm-hmm. Est-ce que ça aide?
Ça a aidé, oui. Mais sauf que j'ai des amis qui vont au fameux kiosque. Puis ils sont pas desservis parce qu'ils manquent de stock. Puis d'après moi, là, je te le dis, là, ce que je trouve déplorable, on dirait que c'était une shot de dépenser de l'argent inutilement parce qu'ils fournissent pas.
Ouais. C'est ce qu'on disait justement. Merci, Robert. C'est que finalement, à la SQDC, bon, on ne fournit pas depuis déjà. Ça va commencer à faire quelques mois là. Ce qu'on dit aussi, ce qui se confirme avec nos deux spécialistes de ce matin, c'est que la qualité laisse à désirer. Là, je peux vous dire qu'on vient d'ouvrir, je viens d'ouvrir pendant la pause une boîte de Quadra, de Broken Coast Cannabis THC Quadra.
Ça vient.
Et moi qui ne connais rien, je suis capable de dire aïe, méchante qualité. Fait qu'imaginez.
Je suis content, c'était ça mon but. Mais ça vient de sortir.
Faire ça, la UQDC. On ne peut pas ouvrir, goûter, tester.
Non, ça fait partie des règles provinciales.
On ne peut pas le respirer juste pour voir la différence entre l'odeur d'un cannabis moyen versus un cannabis qui serait meilleur.
Non, parce que justement, à l'odeur, quelqu'un, puis moi, je ne me considère pas encore assez là, mais à l'odeur, quelqu'un peut savoir les effets. Parce que comme on parlait avant la pause, c'est les terpènes.
Ouais.
Donc, les terpènes, juste pour revenir 30 secondes, c'est que c'est un effet d'entourage. Donc, c'est tous ces composés-là chimiques qui agissent ensemble. Puis moi, j'aime bien voir la face à Isabelle.
Sincèrement, là. Puis en plus, ce matin, je suis un petit peu enrhumée, mais ça sent légèrement citronné.
Oui, il y a du limonène.
Oh, que c'est...
Faut se rappeler quelque chose aussi dans...
Ça, c'est de la qualité,
Dans ce concept-là. C'est comme le cannabis de rue, tu sais. Il y a des bons et des moins bons producteurs. Il y a des producteurs qui vont viser la profitabilité et d'autres plus... Le produit qui va sortir.
Mais sur la rue,
là,
justement, José, est-ce que c'est plutôt mauvais ou c'est plutôt mieux la SQDC?
En fait, c'est une question de protection du consommateur, comme j'expliquais. Dans la rue, on n'irradie pas les produits, mais les chances que des pesticides ou des spores ou des bactéries se retrouvent là-dedans est mille fois plus important. Parce que dans les producteurs commerciaux, on va l'irradier. Plus il est pas sain quand on l'a cultivé, plus on l'irradie. Donc, c'est comme une étape que les producteurs dans la rue ont même pas besoin de faire. Donc, la question, c'est un peu déloyal comme comparaison. Puis, deuxième des choses, un producteur qui va avoir une bonne culture, une culture standardisée où il n'y a aucun problème qui se produit, aura pas besoin d'irradier tant que ça.
Merci.
Ou pas du tout.
Merci beaucoup, José Dominguez. Olivier Desjardins.
Oui.
Comme YouTuber du
Pod
Show. Toi, tu dis la nouvelle, Budweiser, la Budweiserisation du pot, c'est un peu ça. Au lieu des bartenders, ça va être des budtenders. C'est un peu ce que tu fais, c'est-à-dire sommelier de pot. Il y a le prix quand même qui est important aussi, la différence de prix entre la rue. Tu me disais, c'est à peu près 4 à 6 $ sur la rue du gramme, c'est ça?
Ben c'est ça aussi.
Versus 10 $ au moins, la SQDC.
Les alentours de. Puis,
fait que c'est le double.
Ben, c'est le double. Puis en plus, à cause de l'histoire de pas de promotion, puisqu'ils ne veulent pas encourager la consommation, on n'aura jamais de spécial comme pour une 12 que tu payes moins cher qu'une 6 puis une 24. Ça n'existe pas au niveau de la SQDC.
Mais pourquoi la SQDC ne joue pas là-dessus, justement, sur la dégustation?
écoute, il va peut-être falloir un autre gouvernement avec d'autres mentalités pour ça, mais ouais, c'est, je pense que c'est vraiment la seule réponse que je peux te donner.
Merci beaucoup, Olivier Desjardins, tu es avec nous. Intéressant, on apprend des affaires tous les jours. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler avec le pharmacien Jean-Yves Dionne de la fatigue de cet hiver. À tout de suite.